le journal, Yotim Bouinga.
Un retour qui inquiète à Bounia, c'est celui de plus de 300 démobilisés venus de Kisangani. Pour l'état-major opérationnel de l'Ituri, ces ex-combattants constituent une source d'insécurité, mais la CONADER rassure. Autre inquiétude, c'est la situation déplorable de près de 5000 déplacés à Bourigny au sud Kivu. Pas d'eau, pas de nourriture, constat d'une mission conjointe MONUC, OCHA et d'autres partenaires sur place. Et puis c'est parti pour le congrès du PPRD depuis ce matin à Kinshasa, en attente l'investiture des candidats aux prochaines élections. Bonsoir à tous. Inquiétude des forces armées de la RDC à Bounia. Le retour de plus de 300 démobilisés ex-combattants en provenance de Kisangani dérange. Pour l'état-major opérationnel de l'Ituri, ces ex-combattants constituent une source d'insécurité, mais la CONADER rassure. La Commission nationale de démobilisation et réinsertion estime que ces jeunes gens qui ont choisi d'intégrer la vie civile se sont engagés à vivre en harmonie avec leurs semblables dans la société. Écoutez le chargé des statistiques à la CONADER Bounia, Jacques Gondé, demande d'ailleurs à la population de les accueillir fraternellement.
Oui, ce sont des nouveaux arrivés pour nous. Et notre bureau se charge d'accueillir tous les démobilisés qui arrivent. Bon, pour nous, ils sont considérés comme de nouveaux arrivés parce qu'ils viennent des autres sites. Bon, ils sont déjà démobilisés, ce sont maintenant des populations. Ils sont nos frères, nous sommes obligés de les encadrer, de les accepter parmi la population. Ils étaient des militaires comme tous les autres militaires parce que nous sommes maintenant dans le programme PNDDR. Tous les militaires doivent passer par le CO, ils doivent se faire enregistrer, ils doivent faire leur choix librement et choisir s'ils veulent continuer avec l'armée ou rentrer dans la vie civile.
Du côté de Mbujimayi, l'heure est plutôt à l'inauguration du centre d'orientation de Lukelenge par les autorités provinciales. Ces ex-combattants ont besoin d'un soutien moral de tous, a signifié le directeur chargé de la démobilisation de la CONADER. Plusieurs démobilisés sont attendus en vue de leur démobilisation. C'est l'unique centre d'orientation que compte la province du Kasaï oriental. Les détails avec Julien Nyamouini.
Deux temps forts ont marqué l'ouverture de ce centre d'orientation situé à 12 km de Mbujimayi. Un centre qui attend, selon le directeur en charge du désarmement et démobilisation de la CONADER, Benoît Molondo, plusieurs centaines d'hommes qui veulent quitter ou intégrer les FRDC. Processus obligatoire, a-t-il rappelé, pour une paix durable dans notre pays. Combattants, souligne Benoît Molondo, ont besoin du soutien moral de tous pour qu'ils répondent aux obligations de la nation et de FRDC. Deuxième temps fort, Patrick Balouba, vice-gouverneur en charge des questions politiques et administratives, a fait valoir que ce centre rêvait d'une importance capitale, d'autant plus qu'il s'agit d'une bonne intégration des hommes en armes pour assurer une bonne transition politique et assurer un bon processus de paix voulu par tous. Pas de chiffres pour l'instant en ce qui concerne le premier candidat à la démobilisation. Tous les gestionnaires ou presque sont optimistes quant à la réussite de l'opération. La population environnante, quant à elle, est préoccupée par la recherche du travail dans ce centre d'orientation. Julien Nyamouini, Lokelenge, Radio Okapi.
Situation humanitaire préoccupante à Bourigny, dans le territoire de Mwenga. Nous sommes au sud Kivu. 5000 familles déplacées y vivent sans eau, sans nourriture. Ces personnes ont fui les opérations des FRDC qui chassaient les combattants hutu-rwandais, une opération lancée en novembre et en décembre dernier. Constat sur place à Bourigny d'une mission conjointe de la section des affaires humanitaires de la MONUC, de l'Office des Nations Unies pour la coordination des activités humanitaires OCHA et d'autres partenaires humanitaires de la province. Le chef de la section des affaires humanitaires de la MONUC Bukavu, Joseph Inganji.
Il y a un mouvement des populations, ce qu'on appelle des déplacements. Les populations manquent abri, ils manquent ce qu'ils vont manger, ils manquent aussi l'eau. Il y a une aussi le problème des mosaïques qui attaquaient les maniocs, qui est la culture de base. Selon les autorités locales, il y avait à peu près 5000 familles qui étaient déplacées. Mais il y en a beaucoup qui étaient l'autre côté des FDLR. La situation, c'est déplorable parce que il y en a beaucoup de tracasseries causées par les militaires du gouvernement. Il y en a aussi les FDLR à l'autre côté qui dérangeaient la population. Et il y en a plusieurs des problèmes là-bas, taxation et les problèmes, les populations ne vivent pas dans la paix.
Et puis Nord Kivu, le remplacement de la 5e brigade intégrée basée à Rutshuru a commencé. Les éléments de la 2e brigade intégrée venue de Kitona ont commencé à être déployés sur le terrain, mais il leur faudra encore 1 à 2 semaines pour prendre effectivement possession de leur position. Entre-temps, les habitants de Rutshuru signalent certaines poches de résistance des insurgés à l'intérieur même du territoire. Jules Ngala a séjourné à Rutshuru, suivez son reportage.
C'est depuis dimanche soir que les éléments de la 2e brigade intégrée venus de Kitona via Kinshasa ont commencé à se déployer dans le territoire de Rutshuru. À bord d'une dizaine de camions civils apprêtés par l'armée et chacun avec son arme individuelle, ils chantaient et scandaient des chansons diverses en lingala. Les autorités militaires de la province ne donnent aucune précision quant à leur nombre. Ils se limitent tout simplement à indiquer qu'il s'agit là d'un premier groupe sur les effectifs de toute une brigade à déployer dans ce secteur qui a été le théâtre il y a 2 semaines d'affrontements entre les militaires loyalistes de la 5e brigade intégrée et des insurgés mal connus jusqu'à présent. La 2e brigade intégrée est appelée à remplacer la 5e brigade intégrée mutée dans le Kasaï occidental. À Rutshuru, certains habitants déclarent que la localité de Kibirizi, une 60aine de kilomètres au nord-ouest de Rutshuru, serait encore occupée par les insurgés. Ceux-ci n'auraient pas non plus évacué, selon la même source, la ferme de Matébé, située à 7 km dans la localité de Rangira, groupement de Djomba. La présence des insurgés à Matébé apparaît même tellement évidente pour certains habitants de Rutshuru que beaucoup parmi eux, réfugiés à Goma depuis le début des événements, hésitent toujours à regagner leur maison malgré l'absence des combats sur le terrain. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Ouverture ce lundi à Kisangani d'un centre de fusion d'informations entre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la RDC. Mission de cette structure, échanger des informations sur les groupes armés qui déstabilisent la paix dans la région des Grands Lacs. Ce centre est financé par les États-Unis d'Amérique. Plus de détails avec José Deschartes-Ming.
Le centre de fusion d'informations est une structure qui a été mise sur pied suite à un accord signé l'année dernière entre les gouvernements du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Le Burundi, quatrième État parti à l'accord, s'est joint par la suite. Selon le colonel Kelly Langdorf de l'armée américaine, facilitateur de cette structure, le centre a pour mission d'échanger des informations sur les groupes armés qui déstabilisent la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Chaque État est représenté par 6 membres. En plus, la MONUC et l'ONUB, la mission des Nations Unies au Burundi, ont chacune un délégué. Après 3 semaines de travaux d'harmonisation des vues entre les facilitateurs, c'est-à-dire les États-Unis, et les États partis à l'accord, 4 délégués vont rentrer dans leur pays pour constituer le point focal dans leurs capitales respectives. 2 vont rester à Kisangani au centre des commandements. Le représentant des États-Unis a rappelé au cours de la cérémonie de ce lundi que le centre de fusion d'informations ne va pas s'ingérer dans le fonctionnement traditionnel des services de renseignement des États partis à cet accord. Kisangani, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
18h08 dans la capitale, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie en congrès depuis ce matin dans la capitale. La grande nouvelle attendue de ce congrès, c'est l'investiture des candidats aux prochaines élections avec en toile de fond le candidat PPRD à la présidentielle. Pour l'instant, les travaux se poursuivent en commission à la Foire internationale de Kinshasa. Reportage de Mimi Kalamba rendu par Jean-Claude Toumbakamanga.
Le PPRD n'a pas encore investi ses candidats. Les travaux en commission sont presque achevés et devraient être adoptés d'ici là en plénière. C'est alors que l'on connaîtra les candidats du PPRD aux prochaines élections. Le parti cher à Joseph Kabila revoit aussi ses statuts et arrête sa stratégie électorale. Pour la présidentielle, le décor, à savoir des photos géantes de Joseph Kabila affichées à la Fikine, et même le discours du vice-président Yerodia avance le nom de Joseph Kabila comme candidat unique du PPRD. C'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, citation de Yerodia Abdoulaye Ndombassi lors de l'ouverture du congrès, une ouverture retransmise en direct sur la RTNC. Plusieurs amis du PPRD assistent à ce congrès. Parmi eux figurent le Parti socialiste belge, le ZANU-PF de Robert Mugabe, le PCT de Denis Sassou Nguesso et autres. Yerodia Abdoulaye s'en est pris aux adversaires politiques du PPRD. Il qualifie entre autres le leader de l'UDPS d'ayatollah pour ses prises de position face au processus électoral. Une absence à signaler à ce congrès, celle du président Joseph Kabila. D'après Radio Kapi Lubumbashi, le chef de l'État se repose en ce moment dans la capitale du Cuivre. Au PPRD, la porte-parole précise que cette absence ne dérangera pas le choix de leur candidat.
Nous vous signalons que la plénière du PPRD vient de reprendre après les travaux en commission. Les fédérations provinciales du PPRD se prononcent déjà pour la candidature de Joseph Kabila, le cas des fédérations du Bandundu et de l'Équateur. Impliquer les femmes au retour de la paix dans les Grands Lacs par des actions concrètes, tel est l'objectif que le ministère de la Condition féminine et famille, en partenariat avec le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, s'est donné. Ils ont organisé une réunion de 3 jours dans le cadre de la Conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans les Grands Lacs. L'ouverture de ces travaux a eu lieu ce matin à Kinshasa, dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. La ministre de la Condition féminine et famille, Faïda Mwangiloa, revient sur les grandes lignes de cette rencontre. Ses propos sont recueillis par Kelly Kouté.
L'harmonisation de travaux au niveau de chaque État. Donc chaque État a travaillé. Nous allons harmoniser les points de vue au niveau des 5 pays. Nous avons pensé utiliser d'abord, inviter d'abord les pays qui étaient directement concernés par le conflit. Mais l'initiative est vraiment de travailler pour le retour de la paix. Surtout pour nous, les femmes de la République démocratique du Congo, nous avons tant souffert. Et pour que nous puissions trouver des solutions, il faut notre propre implication comme femmes et nous mobiliser, toucher les autorités, toucher les communautés. Influencer positivement parce que la paix, ça ne se parle pas seulement selon le verbe, il faut passer par l'action. Il y a des mécanismes parce que c'est là que nous allons examiner dans tous les projets qui seront traités durant ces 3 jours.
Faïda Mwangiloa, ministre de la Condition féminine et famille. On a noté également la présence de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies dans les Grands Lacs, Ibrahim Fall, de la représentante de la société civile rwandaise et celle de l'Ouganda, ainsi que de la ministre burundaise de la solidarité nationale, du genre et du droit de la personne. Le paludisme tue plus que le sida au Congo, constat de l'ONG CARE International. Elle a d'ailleurs commencé à sensibiliser la population de Kasongo par le biais de 5 associations locales et les relais communautaires. Le message est simple, l'assainissement de l'environnement et l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Difficile cependant de l'appliquer faute de la moustiquaire imprégnée. Reportage de Mamie Alili Chibango.
Le premier principe, celui de l'assainissement de l'environnement, est déjà effectif dans les territoires des Kasongo, propriété qui a conduit à la diminution des moustiques à la cité de ces territoires. Cependant, la population se plaint du manque sur terrain de la moustiquaire imprégnée très importante pour lutter contre la malaria, selon l'ONG CARE International. Mais cet outil n'est toujours pas disponible sur terrain depuis que la sensibilisation a commencé. Ces retards de livraison des moustiquaires imprégnés inquiètent l'infirmier superviseur au projet malaria, M. Rodrigue Kiloka de CARE International.
En fait, c'est un processus. Les moustiquaires seront là. Nous avons d'abord commencé par les différentes formations. Vous savez, nous avons pu former 45 prestataires de soins, 250 relais communautaires pour qu'ils puissent s'imprégner des différentes méthodes que nous allons utiliser pour cette sensibilisation-là. Tantôt là, et d'un moment à l'autre, PNUD va nous amener ces moustiquaires là-bas que nous aurons à distribuer dans la communauté.
Cette campagne vise à réduire les taux de mortalité infantile et des femmes enceintes dues au paludisme. Ainsi, en dehors des personnes déjà formées, une autre formation est prévue sur la surveillance épidémiologique. Mamia Lili Chibangu, Kindu, Radio Kapi.
À l'étranger, plus précisément au Congo-Brazzaville, le débat sur la gestion de recettes pétrolières est loin de se terminer. La justice britannique a récemment révélé d'importants montages financiers organisé par les autorités, des manœuvres que reconnaît le Premier ministre. Maintenant, c'est l'opposition qui réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer la situation. Depuis Brazzaville, Arsène Séverin.
Au cours d'une conférence de presse, le Premier ministre Isidore Nzouba révèle que l'argent du pétrole est dissimulé par des pétrodollars peu orthodoxes pour échapper aux créanciers autour. Le week-end, le conseiller du chef de l'État, Thierry Mungala, appelle la jeunesse et toute la classe politique à se lever contre ces vautours et donc à soutenir la nouvelle initiative du gouvernement. Trop c'est trop, déclare Jacques Mouadampassi, député et coordonnateur de la coalition de l'opposition, qui réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer la situation. Malgré la flambée des prix du pétrole sur le marché, les Congolais deviennent de plus en plus pauvres, ajoute-t-il. D'après le collectif budgétaire réalisé fin 2005, le pays a obtenu un surplus de 365 millions de dollars. Mais Global Witness indique que plus du tiers de la somme a été cachée. Avec l'examen du budget 2006 au Parlement, les débats sur la gestion des recettes pétrolières sont loin d'être finis. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio-Canada.